Radio Classique et votre journée devient plus belle.
Bon réveil, bonne journée, soyez les bienvenus sur Radio Classique. Nous sommes le jeudi 24 septembre, il est 7h30.
La matinale de Radio Classique avec Guillaume Durand.
Et d'abord, bienvenue à vous tous. Trois nuances de rouge pour illustrer la circulation active du virus. Évidemment, les élus du Midi contestent, mais le gouvernement a pris des décisions, cher Marc Bourg.
Oui, la deuxième vague est là et le Covid-19 va de nouveau bouleverser notre quotidien. Démonstration hier soir d'Olivier Véran, longue conférence de presse du ministre de la Santé, carte de France à l'appui. Nouveau code couleur, Rémy Pfister, du rouge, du super rouge et du rouge écarlate.
Une nouvelle carte avec trois types de zones. Tout d'abord, la zone rouge, elle concerne 69 départements. C'est là où il y a eu au moins 50 cas pour 100 000 habitants. Pas de mesure pour le moment, mais une surveillance très étroite. Ensuite, les zones d'alerte renforcées. Elles concernent 9 métropoles, dont Paris, Lyon ou encore Toulouse. Le virus circule très fortement, plus de 200 cas pour 100 000 habitants, mais bien plus inquiétant, il touche désormais les populations fragiles comme les personnes âgées ou les diabétiques. Les admissions dans les hôpitaux ont une courbe exponentielle et les services de réanimation accueillent au moins un patient Covid par jour. Enfin, deux zones sont en alerte maximale, la Guadeloupe et la métropole Aix-Marseille, où les hôpitaux sont au bord de la rupture avec seulement quelques lits de réanimation encore disponibles. L'état d'urgence sanitaire devra être déclenché si la situation s'aggrave dans ces territoires, avec la clé impossible reconfinement.
Et en attendant, justement, le gouvernement choisit la méthode forte pour les Bouches-du-Rhône et la Guadeloupe. Rideau pour les bars et les restaurants à compter de samedi, annoncé hier soir Olivier Véran, le ministre de la Santé.
Il s'agit tout d'abord de la fermeture totale des bars et des restaurants. Ces mesures, j'ai conscience qu'elles sont difficiles. Elles sont temporaires. L'objectif est qu'elles ne durent pas plus de 2 semaines. Le temps de freiner la propagation du virus.
Et seront épargnés les théâtres, les musées, les cinémas, rouge écarlate sur la carte, colère noire des patrons de restaurants et des élus locaux. La maire de Marseille parle d'une décision politique incompréhensible. Michel Rubirola dénonce l'absence de concertation. Une punition collective, estime de son côté Renaud Muselier, le président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Nous serons à Marseille dans le journal de 8h.
Et puis Marc, l'étau se resserre aussi sacrément sur d'autres grandes villes.
Et Bordeaux, Nice, Lille, Toulouse ou encore Paris, placé hier soir en zone rouge renforcée, mesure drastique là encore. Les bars, les restaurants, les gymnases baisseront le rideau à 22h à compter de lundi. En attendant, dès samedi, dans 2 jours, les rassemblements privés seront limités à 10 personnes. Ça concerne les anniversaires, les communions et même, les mariages. De quoi plomber le moral de ce que l'on appelle les wedding planners, les organisateurs de mariages. À l'image d'Élodie Villemus, elle travaille à Paris et se dit catastrophée au micro de Rémi Vallès.
C'est le deuxième secteur le plus touché après le tourisme, l'événementiel. La priorité sanitaire et là, maintenant, si on a un regard économique, nous, on a l'intégralité de nos mariages qui ont été annulés. On a un peu l'impression d'avoir le deuxième effet qui se coule. On a essayé d'être très optimiste en se disant, bon, voilà, on a confiné, on a déconfiné, ça va aller, on est dans le creux de la vague, on va remonter. Et là, on replonge totalement.
Et quant au rassemblement public, ils sont réduits à 1000 personnes. Interrogation ce matin sur le sort du tournoi de tennis de Roland-Garros prévu dimanche. Une réunion avec la préfecture est prévue d'ici demain. Quant au bilan ce matin de l'épidémie en France, 13 000 nouveaux cas en l'espace de 24 heures. Un peu moins de 1000 patients sont désormais admis en réanimation.
Il y a ce matin une incertitude, d'ailleurs depuis plusieurs jours en Méditerranée, mon cher Marc, sur le sort du navire humanitaire qui s'appelle Alan Kurdi.
Ouais, le bateau d'une ONG allemande fait route vers Marseille ce matin. À son bord, 130 migrants sauvés en mer. Sans réponse de l'Italie, le navire a décidé de se diriger vers la cité phocéenne. Paris demande quand même toujours à Rome de l'accueillir. Nouvelle bataille, nouveau bras de fer, alors que l'Europe tente d'éviter le chacun pour soi sur la politique migratoire. Bruxelles a présenté son pacte hier, Thomas Giraudeau. À l'arrivée, l'Europe la moins accueillante a sans doute remporté la partie.
Pas beaucoup d'avancées ni de bonnes surprises. Grande déception des ONG d'aide aux migrants, mais un changement à noter quand même sur les sauvetages en mer. Tous les ans, chaque État membre devra déclarer combien de migrants il accueillera les mois suivants. Cela évitera, selon un expert, de voir des bateaux stagner désespérément en mer en attendant qu'un pays le laisse accoster sur ses côtes. Sauf que les États membres peuvent toujours refuser l'accueil du moindre migrant sur leur territoire. Dans ce cas, ils devront financer le renvoi des personnes en situation irrégulière dans leur pays d'origine. Le pacte européen rappelle aussi que chaque État membre est obligé d'autoriser le débarquement d'un bateau dans un de ses ports. L'Italie risque d'ailleurs des sanctions pour ses refus répétés ces derniers mois, mais rien de plus dans le texte pour forcer les réfractaires. Enfin, l'Europe demande aux pays de ne pas condamner les ONG qui sauvent des migrants en mer, mais ce n'est qu'une demande et pas une obligation.
Et la France France annonce par ailleurs que 500 mineurs rescapés du camp de Moria en Grèce seront accueillis au total dans les prochains jours. Ce camp de réfugiés sur l'île de Lesbos avait été ravagé par les flammes au début du mois.
C'est une raffinerie historique de Total.
Inaugurée par Pompidou dans les années 60, le site de Grandpuy en région parisienne vit sans doute ces derniers mois. Total doit annoncer la reconversion du site aujourd'hui. Place au bioplastique ou à la production de biocarburants, 200 emplois, soit la moitié des effectifs, pourraient disparaître. Au-delà des conséquences sociales, Thierry Defresne, représentant syndical de Grandpuy, alerte sur l'impact écologique de cette reconversion.
Si on arrête la fabrication de produits pétroliers à Grandpuy, donc tout à fait à proximité des consommateurs, ces pertes de production vont être compensées à 100% par l'import. Les Parisiens, en région parisienne, mais également aussi les Français qui habitent en l'Est de la France, ils vont recevoir de l'essence qui vient de pays à bas coûts sociaux et environnementaux. Il faut aussi compter le transport de ces carburants. Tout ça est très négatif pour la planète. C'est un outil industriel français qu'on perd et je pense que là-dessus, le gouvernement, il a son mot à dire.
Des propos recueillis par Éric Mauban. À l'étranger, aux États-Unis, nouvelle nuit de tension à Louisville, dans le Kentucky. Deux policiers ont été blessés par balle en marge d'une manifestation antiraciste liée à la mort de l'afro-américaine Brenoa Taylor. Un suspect a été interpellé.
Enfin, Saint-Germain-des-Prés, en même temps, donc la France entière perd une actrice et surtout une chanteuse qui a été pendant très très longtemps sa muse.
Et oui, on a appris hier soir la mort de Juliette Gréco à l'âge de 93 ans. Gréco, 6 décennies de carrière, interprète inoubliable des textes de Léo Ferré, Boris Vian, Serge Gainsbourg. Juliette Gréco, une voix, une élégance qui s'est toujours amusée de son statut d'icône, comme le souligne sa biographe et amie de longue date, Josiane Savigno.
Il y avait cette fille étrange qui se promenait dans Saint-Germain-des-Prés, qui était assez mutique, qui attirait les regards et elle ne chantait pas encore à l'époque. Elle s'amusait beaucoup avec ça. Elle disait, au lieu de dire qu'elle était un mythe, elle disait « Je suis une mythe et je suis devenue une mythe avant même de chanter », ce qui est absolument vrai. Vous savez, on dit toujours « c'est une icône », elle s'en amusait beaucoup. Et c'est aussi un beau parcours d'interprète, comme elle le revendiquait, c'est-à-dire se mettre au service des chansons d'autres personnes. Et ça, c'est quelque chose qui l'a animée jusqu'au bout. Elle a chanté à 89 ans, elle était encore sur scène. Et si elle faisait cette dernière tournée qu'elle avait appelée « Merci », mais qui devait être une longue tournée. Et si elle n'avait pas eu ce chatané AVC, elle serait peut-être encore en train de terminer cette tournée.
Un petit poisson, un petit oiseau, c'est Madame Hortendre. Mais comment s'y prendre quand on est là-haut?
Un petit oiseau et Juliette Gréco qui s'est donc éteinte hier à 93 ans. Hommage à suivre, hein, Guillaume, à 7h50 dans le journal Imprévisible.
Voilà de l'importance de la musique, y compris dans les émissions politiques, puisque ce soir, vous savez qu'il y aura l'émission de France Télévisions qui accueillera le Premier ministre Jean Castex. Souvent, on se demande pourquoi les émissions des années précédentes ou des années anciennes étaient plus mythiques. Et bien, probablement de l'utilisation, par exemple, de choses modernes, les décors et la musique. Par exemple, cette musique qui est signée donc par Wings de Paul et Linda McCartney. Linda McCartney qui était née un 24 septembre 1941, qui fut l'épouse de Paul et qui est morte en 1998. Effectivement, à l'époque, on n'hésitait pas à faire les émissions politiques avec un contexte contemporain. Voilà, c'est un hommage à toute l'équipe de l'heure de vérité qui, effectivement, n'hésitez pas à plonger dans un répertoire contemporain pour présenter les émissions, ce qui n'est plus forcément le cas pour l'ensemble des émissions aujourd'hui. Et 7h38, nous avons rendez-vous avec les spécialistes. Tiens, les voilà.